Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio avec sa bonne humeur et ses conseils juste pour vous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui pour bien démarrer la semaine, on va parler de la beauté dans notre assiette. Et oui, bien manger, c'est important pour notre santé globale, on en parle souvent, pour notre ligne aussi, mais aussi pour, vous allez le découvrir cet après-midi, pour notre peau. Alors que faut-il mettre dans son frigo, dans ses placards, pour éviter les boutons, pour éviter les rides même peut-être, vous allez voir. On va vous détailler tout ça et pour ce faire, notre invitée, ce sera Isabelle Barra, elle est docteure en pharmacie et chrononutritionniste. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, focus sur une maladie cardiaque mal connue, la fibrillation atriale, appelée aussi fibrillation auriculaire. Nous ferons le point sur cette pathologie avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous dira à partir de quand il faut finalement consulter un sexologue.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va écouter cette question qui nous a été posée par Marie-Claude.
Ma fille de 30 ans est atteinte à des problèmes au niveau des ovaires polykystiques. J'aimerais savoir si elle prouve à procréer. J'aimerais aussi savoir si c'est héréditaire parce que moi, avant de l'avoir, j'ai mis 3 ans, mais je n'avais pas fait tous les examens qu'elle a fait. Voilà, j'espère pouvoir avoir une réponse rassurante pour elle et pour moi. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors Jimmy, on va répondre à Marie-Claude. D'abord, les ovaires polykystiques, c'est quoi précisément?
Alors c'est une maladie hormonale qui est soit d'origine ovarienne des ovaires, soit centrale, c'est-à-dire au niveau du cerveau, où la femme va avoir une quantité d'hormones androgènes, en particulier la testostérone, qui va être présente en trop grande quantité. Et on appelait cette maladie la maladie des ovaires polykystiques, puisque dans les années 30, on pensait qu'il y avait des kystes au niveau des ovaires. Or, ce ne sont pas des kystes que la femme va avoir, c'est que vous allez avoir au cours de chaque cycle des follicules qui vont normalement donner un ovocyte. Eh bien, lorsque vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, vous avez plein de kystes, plein de follicules qui ne vont pas aboutir à maturation. Et vous allez avoir plein qui ne vont pas donner de vraie ovulation, même si du coup, ce n'est pas des kystes qu'on a, puisqu'on ne doit pas avoir de kystes dans le syndrome des ovaires polykystiques.
D'accord. Alors, est-ce que c'est quelque chose de très fréquent ou pas?
Alors, c'est une maladie qui est très fréquente. C'est 10% des femmes, une femme sur 10. Oui, et c'est même la première cause d'infertilité chez la femme en âge de procréer. Alors, le problème, c'est que cette hormone de testostérone, lorsqu'elle va être présente en trop grande quantité, elle va avoir des effets. Le premier, on l'a dit, c'est sur l'ovulation. Le risque est de ne pas avoir un seul ovocyte qui aboutit correctement pour avoir une fécondation. Mais en plus de ça, du fait d'avoir cette testostérone qui est trop importante, on va avoir une pilosité excessive, on appelle ça de l'hirsutisme. Et puis, il y a aussi des complications métaboliques, puisque qui dit testostérone va dire augmentation de la masse grasse et donc risque de diabète et de maladies cardiovasculaires.
Et alors, comme le demandait Marie-Claude, du coup, clairement, on l'a compris, s'il y a des troubles d'ovulation, il y a des troubles de la fertilité, ça veut dire que sa fille n'aura jamais de bébé? Non, quand même pas. Hein,
non, évidemment. Ouais. Non. Alors, ça veut dire qu'il y aura peut-être des difficultés qu'il faut identifier. Ça veut dire que si jamais vous avez des rapports réguliers, que vous n'avez pas de problème particulier et que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas avoir d'enfant, eh bien, il faut consulter.
Il faut investiguer et chercher ça.
Exactement,
éventuellement.
Parce que les autres signes que j'ai décrits, on a dit qu'on va avoir des cycles qui vont être plus longs, 35 à 40 jours, parfois une absence de cycle, eh bien certaines femmes ne vont pas spécialement consulter. Elles vont patienter, même la pilosité, on va croire que c'est lié à l'esthétisme. Or, c'est une maladie hormonale et donc il faut consulter car il existe des solutions pour améliorer ça. On a tendance à prescrire parfois une pilule contraceptive pour limiter les mécanismes hormonaux, mais aussi on peut avoir recours à une assistance médicale de procréation si jamais vraiment il y a de grandes difficultés.
Et juste pour terminer, elle demandait si c'est génétique, oui, non?
Oui, si jamais vous avez quelqu'un de proche qui a, donc votre mère par exemple, qui a un syndrome des ovaires polykystiques, ça augmente de 30% la probabilité d'en avoir. Il y a des causes environnementales et notamment les perturbateurs endocriniens
qui sont
responsables
du doigt,
exactement de cette maladie.
Merci Jimmy. Alors on consacrera une émission peut-être à ce sujet bientôt car il y a encore beaucoup à dire là-dessus. On va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est une question qui nous a été envoyée par la poste, un courrier qu'on a reçu ici à son rendez-vous. C'est Christophe Lancelot qui nous demande pourquoi. Je vais refaire un petit résumé de sa lettre. Il dit « J'ai souvent des mauvaises odeurs dans le nez, Jimmy, une sensation en tout cas de sentir tout le temps des mauvaises odeurs que personne ne sent autour de moi. » Il dit qu'il a également un écoulement au niveau nasal et dans la gorge constamment. Est-ce qu'il y a un lien d'abord entre les deux? Je veux dire, Jimmy, qu'est-ce que c'est cette histoire d'odeur dans le nez mauvaise?
C'est une vraie pathologie, ouais. Ça s'appelle la cacosmie. C'est le fait de sentir des mauvaises odeurs. Alors, il y en a de deux types. Elle peut être subjective, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui ressentez ces odeurs.
C'est ce qu'il décrit,
ouais. Alors, subjective, c'est qu'il n'y a que vous, mais il n'y a pas de vraies fausses odeurs. Et dans ces cas-là, c'est un problème neurologique. Le lobe temporal peut être atteint et certaines tumeurs cérébrales peuvent révéler cette cacosmie. En revanche, elle peut être objective et donc on sent effectivement qu'il y a une odeur. Et souvent, c'est une infection dentaire, ORL, un champignon, une mycose ou parfois un reflux qui va donner ces symptômes. Et donc, on pourra traiter cette cacosmie, cette odeur bizarre qu'on peut avoir.
Bon, vaut mieux avoir la deuxième version alors, Jimmy. Mais il parlait d'écoulement nasal aussi, est-ce que ça a un lien?
C'est un problème de sinus. Très certainement qu'il a des sinus qui sont trop inflammatoires. Peut-être qu'il a une maladie des sinus, qu'il faut aller voir l'ORL, puisque en traitant ce problème de sécrétion, eh bien, on va faire disparaître l'odeur, car la rhinite chronique, le nez constamment enrhumé, va entraîner de l'inflammation et peut dégager justement cette odeur nauséabonde.
D'accord.
Donc c'est une vraie pathologie.
La cacosmie.
Alors il y a une histoire de caca, mais c'est pas tout à fait. Voilà, l'odeur, caca, les mauvaises odeurs,
d'accord,
vous aurez compris.
Cacosmie. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Christophe et Marie-Claude qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée pour le dossier du jour, c'est Isabelle Barra. Elle est docteure en pharmacie et chrononutritionniste. Elle va tout nous dire aujourd'hui sur la beauté dans notre assiette. Et oui, ce que l'on mange peut avoir un impact direct sur notre peau, sur notre teint. On y revient très vite, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invitée du jour, c'est vous Isabelle Barra, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous.
Vous êtes docteur en pharmacie, chrononutritionniste et donc vous allez nous aider aujourd'hui à mettre de la beauté dans notre assiette. Alors Isabelle, on savait que ce que l'on mangeait, bon on en parle souvent dans cette émission, hein, c'est important pour prendre soin de tous nos organes, de notre santé en général, mais donc ça allait aussi pour notre peau.
Oui, tout à fait. En fait, pour notre peau, pour nos cheveux, pour nos ongles, il y a des aliments qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, qui apportent beaucoup plus de choses, notamment des micronutriments que l'on trouve dans le groupe des vitamines, des sels minéraux, des antioxydants ou des corps gras particuliers et qui sont très intéressants pour la peau. Pour comprendre le mode d'action de ces nutriments, déjà, il faut un petit peu comprendre comment fonctionne la peau. Vous savez que la peau, c'est un organe qui a différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme.
C'est vrai qu'on ne pense pas que c'est un organe, on se dit c'est une enveloppe. Bon, voilà,
oui,
mais c'est un vrai organe.
C'est considéré comme un organe, oui, tout à fait. Et dans le derme, il y a des cellules particulières qui s'appellent des fibroblastes. Et ces fibroblastes vont synthétiser des fibres de collagène et d'élastine. L'élastine, c'est vraiment le rôle de l'élasticité de la peau. Et le collagène, c'est un petit peu comme de la colle. Et ça va être responsable de tout ce qui est tonicité, fermeté de la peau.
Alors, vous l'avez dit, il y a quatre grands groupes d'oligo-éléments pour être beau, les vitamines, les sels minéraux, les antioxydants, les corps gras. Et donc, on va commencer par les vitamines. Quelles sont les bonnes vitamines pour avoir un joli teint, non pas comme moi, mais comme Mélanie?
Ah, c'est gentil. Il commence la semaine par des compliments, j'aime beaucoup. C'est bien, Jimmy, il faudrait faire comme ça tous les jours.
Alors, la star des vitamines pour les vitamines de la peau, c'est incontestablement c'est la vitamine A, qu'on appelle aussi le rétinol. La vitamine A va jouer sur tous les fronts, qui va jouer sur l'activation, le renouvellement des fibroblastes, mais aussi sur la synthèse de collagène et d'élastine, et également avoir un rôle qu'on appelle antioxydant de protection, parce que vous savez que nos cellules sont constamment agressées par ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont des molécules très instables qui viennent se fixer sur nos cellules et qui les endommagent.
Nous faire vieillir, hein,
oui,
c'est ça.
C'est en fait, alors les radicaux libres sont naturels, hein, c'est normal, ça vient un petit peu de la respiration entre guillemets de la cellule, mais ça peut être aussi augmenté par les UV, par le tabac, par le stress et la pollution. Donc en fait, il y a une activité antiradicalaire qui est très importante de certains aliments et c'est des micronutriments qui vont neutraliser un petit peu ces radicaux libres.
Vous disiez la vitamine A, on la trouve dans quoi?
Alors la vitamine A, on la trouve. Alors la vitamine A, il faut savoir que dans l'être humain ou dans les êtres vivants, elle est stockée dans le foie. Donc on va trouver la vitamine A dans le foie de veau, dans les foies animaux, dans
ça,
les foies gras.
Pas trop tout ça, j'espère. Alors, que vous allez le foie gras bientôt,
oui,
c'est les fêtes. Alors
aussi.
Éventuellement
oui,
à Noël,
voilà,
je ferai le plein
de vitamine
A. Vous
aurez tout pour Noël. Dans tout ce que je vais vous dire, vous allez
Est-ce
voir,
qu'il y a un
ça
truc
va.
Un peu plus accessible que le foie de veau, sinon.
Il y a aussi le foie de morue qui peut être très bon. Bon, ça après c'est en fonction des goûts, mais aussi dans le laitage. Beurre, fromage aussi.
Ça va.
Alors, le rétinol a son pendant dans le monde végétal, sous forme de bêta-carotène. Le bêta-carotène qui va se transformer dans votre organisme en rétinol.
Et manger des carottes, ça rend aimable. Mais est-ce qu'on pourrait en plus prendre, par exemple, de la vitamine C? Les Français adorent ça quand on a un petit rhume. Est-ce que pour notre peau, ça pourrait nous aider?
Alors, la vitamine C, c'est la deuxième vitamine qui est la plus importante. C'est vrai qu'on en parle surtout pour l'immunité, pour apporter l'énergie à la vitamine C.
Il y en a plus partout en ce moment.
Oui, bah, c'est important, bien sûr. Mais la vitamine C est également très importante parce qu'elle stimule aussi les fibres de collagène et d'élastine. Et elle a aussi des qualités antioxydantes très importantes au cœur des cellules. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, qui va se situer dans la cellule, alors que la vitamine A, elle va se situer dans la membrane cellulaire. Donc, elles vont avoir un rôle complémentaire dans la protection des cellules. Il va y avoir, en fait, comme des petits soldats qui vont s'opposer aux radicaux libres dans la membrane et d'autres à l'intérieur de la cellule. Alors, les vitamines C, ben, il n'y a
J'allais vous dire les oranges, mais non, en
fait. Il n'y a pas que les oranges. Non, en fait, ça fait partie un petit peu des idées reçues. Ce n'est pas le top 10. Hein.
C'est quoi, alors
Goyave, cassis. Alors, vraiment.
C'est pas mal. Je préfère ça que le foie, déjà. Hein, donc, alors, je suis allée sur la goyave.
C'est vrai que.
Et la pomme de terre aussi, je crois, c'est étonnant.
Oui, la pomme de terre.
J'ai mangé une raclette hier avec plein de pommes de terre. Est-ce que c'est bon pour l'instant?
J'allais dire, Jimmy, mangez énormément de frites et de chips.
Très, très bien si vous l'avez pris au petit déjeuner.
Ah non, bah non, la raclette au petit-déj, je peux vous assurer que c'est compliqué. Déjà, hier soir, j'ai eu du mal à digérer.
Il faut que je vous convertisse, parce que ça peut être pas mal aussi.
Donc oui, les pommes de terre, c'est bien du coup pour le teint?
Oui, parce que ça comporte de la vitamine C, c'est pas mauvais la pomme de terre. En plus, c'est un alcalinisant de l'organisme, c'est un bon légume. Hein.
Bon, allez, on va continuer les frites. Alors, bon, je suis sûre qu'on va, va pas s'arrêter là-dessus.
Dans les légumes, par contre, il y a le poivron rouge qui est la star des légumes et qui est trois fois plus que les oranges et mandarines.
Donc, on va laisser tomber les oranges. Enfin, on peut continuer de temps en temps, mais plutôt pour la vitamine C, miser sur les poivrons, pommes de terre, cassis et goyaves. On passe pour terminer sur cette partie-là aux sels minéraux. Lesquels sont inévitables pour notre beauté?
Alors, vraiment, c'est pareil, le sel, l'oligo-élément le plus important pour la peau, c'est le zinc. Alors le zinc, déjà, c'est l'oligo-élément qu'on a le plus dans le corps. C'est-à-dire qu'il est nécessaire à 300 réactions biochimiques, qui est vraiment indispensable. On ne le sait pas beaucoup, mais le zinc, c'est en plus l'oligo-élément qu'on manque le plus.
D'accord. Et on le trouve où, celui-là?
Alors, on trouve, la star du zinc, c'est l'huître.
Bon, génial. Noël, c'est juste top pour la peau,
exactement.
Les fêtes, tout ça.
Exactement. Donc, huître, coquillage, bulot, les foies aussi. D'accord, de nouveau, foie de canard, foie de veau, les œufs. Et graines de citrouille, particulièrement riches en zinc.
D'accord.
Donc le zinc intervient sur le collagène, antioxydant, il stimule l'immunité et antimicrobien.
Donc une cure de zinc plutôt alimentaire, ça suffit.
Alors on peut faire les deux. On peut faire les deux, surtout pour les gens qui ont de l'acné, les adolescents, ils connaissent bien les suppléments en zinc.
Mmh. Très bien.
Souvenir.
Vous avez
souvenir
eu votre
d'adolescence,
acné.
Quelques boutons.
On apprend quelque
sujet.
Chose.
Enchaînez,
bien.
Mélanie.
Allez, on adore les petits dossiers comme ça. Isabelle Barra, on va faire une courte pause, on continue dans un instant.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer à vous détailler ce qu'il faut mettre dans notre assiette pour avoir une peau parfaite, lumineuse et sans imperfection, comme le docteur Jimmy Mohamed. Alors tout ça, bien sûr, en se faisant plaisir. Jimmy Mohamed, adulte, hein, pas ado. Des bons conseils pour bien démarrer la semaine. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité aujourd'hui, c'est vous Isabelle Barra, vous êtes docteur en pharmacie et chrononutritionniste. Et notre thème ce lundi avec vous, c'est la beauté dans notre assiette. Donc la troisième grande famille qui est très importante, on a vu juste avant donc les vitamines et
les sels minéraux.
Et on va passer donc aux antioxydants. Ça agit sur quoi? Ça nous empêche en fait de vieillir au niveau cutané, c'est
ça? Oui, alors les antioxydants. Bon, déjà, la vitamine C avait des propriétés antioxydantes, le zinc également. Mais là, c'est tous les autres antioxydants qu'on trouve dans les pigments végétaux. Vous savez que les végétaux ont vraiment des couleurs extraordinaires. Ce n'est pas pour faire beau, c'est pour les protéger.
Oui.
En fait, c'est pour protéger vis-à-vis des UV.
D'accord, l'orange est orange, la carotte est orange, mais ça a une raison, la tomate est rouge.
Exactement, ça a une raison. Et donc, ces antioxydants, bien, c'est très bien de les ingérer parce qu'ils vont également nous protéger nos cellules.
Et est-ce qu'on peut espérer avoir un peu moins de rides? Et si oui, on commence à partir de quel âge? Est-ce que c'est trop tard pour Mélanie ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose?
Je mange plein de légumes, moi, contrairement à vous.
<C'est dur. rire> Non, ben, en fait, vaut mieux tard que jamais, on va dire. Mais
c'est mal barré, Mélanie Gomez, vous avez
non,
compris.
Non, ça, c'est pas vrai. Mais dans le monde végétal, c'est vrai qu'on a des pigments extraordinaires. On a les caroténoïdes, évidemment, autres que la bêta-carotène. Il y a le lycopène, la lutéine, qu'on va trouver dans la tomate, dans
les
poivrons.
Tout ça, c'est des pigments colorés dont vous parlez.
Oui,
c'est
oui,
ça,
oui,
qui
tout
sont
à
des
fait.
Antioxydants.
Exactement.
En gros, ces plantes, elles ont ces couleurs-là, ces pigments-là, pour se protéger du soleil, hein, vous dites, pour qu'elles restent en bon état.
Oui, il y a la photosynthèse pour le vert, mais il y a également toutes les autres couleurs. Voilà, et c'est bien de les ingérer.
En les ingérant, ça va nous aider à vieillir moins vite, en tout cas, c'est ça.
Sachant que parmi certains pigments, il y en a qui sont mieux pour la peau que d'autres.
Lesquels, alors?
Eh bien, ceux, par exemple, lycopène, lutéine de la tomate, qui ont un tropisme pour la peau. Il y a le poivron, brocoli, les épinards, tout ce qui
les
est...
Les légumes verts, c'est important, hein, c'est ça.
Alors,
aussi,
très épinards, très verts, voilà. Ouais. Voilà, tout à fait.
Le mâche, poireau, bof, quoi, alors, par exemple.
Alors, ça a d'autres propriétés, surtout sur le microbiote.
D'accord, mais sur la peau, en tout cas, vaut mieux le brocoli ou l'épinard,
voilà,
vous dites.
Voilà. Et puis, les boissons, tout ce qui est thé vert, également, et les polyphénols, hein, qui sont des antioxydants qu'on appelait avant les tanins, qui sont très importants.
Et puis décembre, c'est le mois du chocolat.
Est-ce voilà. Qu'on pourrait... Jimmy, il en mange toute l'année.
Exactement.
Du chocolat.
Oui, c'est, je dis le mois, c'est l'année du chocolat avec moi. Mais est-ce qu'il y a des chocolats? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce qu'il y a des chocolats privilégiés? Le chocolat blanc,
chocolat
c'est pas
noir.
Mal. J'aime bien.
Chocolat noir, c'est bourré de polyphénol.
Le blanc, c'est que du gras, je crois. Enfin, si je me trompe pas.
Ah, c'est bon quand même.
Ouais. Pour la pourquoi peau, le chocolat alors? C'est bon pour la peau? Moi, je pensais que ça donnait des boutons trop de chocolat.
Alors ça dépend. Ça comporte beaucoup de polyphénol. C'est un peu comme le vin. C'est le French paradox. C'est-à-dire qu'il y a des très très bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes.
Mais pour la peau, un peu de chocolat noir,
c'est très bien.
C'est
pour les polyphénols, c'est un antioxydant extrêmement efficace.
D'accord.
Et le vin aussi, hein, les anthocyanes. Dans le vin a des polyphénols, mais il y a
mais
également
le vin
des
rouge,
anthocyanes.
Hein, surtout, je
le
crois.
Vin rouge, le vin rouge, bien sûr, c'est très très bon pour la peau. Enfin,
avec modération, bien sûr.
Avec modération, parce qu'il a un grand toxique, c'est l'alcool. Bien alors sûr. Là, il est contrebalancé par la toxicité de l'éthanol. Au niveau foie, c'est pas terrible, c'est vrai. Mais les anthocyanes sont des grands protecteurs au niveau des cellules, hein, le resveratrol, etc.
Bon, l'alcool, le vin, de toute façon, c'est deux verres par jour et pas tous les jours.
Voilà.
Les œufs aussi, est-ce que c'est bon si je me fais une petite omelette le matin là, est-ce que c'est bien?
Alors les œufs, il y a pas mal de choses dans les œufs. Il y a des vitamines assez intéressantes. Hein, on l'a vu aussi, vitamine A, du zinc également. Il y a des protéines qui sont une source quand même très très importante et on n'en parle pas beaucoup des protéines pour la peau.
Bah oui, c'est vrai, j'aurais
mais
pas dit.
Ah si, les protéines c'est important, les protéines d'origine animale qui sont bien plus qualitatives et
vous
quantitatives.
Êtes content, il faut manger de la viande.
Oui, il faut manger de la viande, on vient du chasseur-cueilleur, hein, faut pas l'oublier. Et en fait, les besoins de l'être humain, c'est essentiellement des protéines, essentiellement d'origine animale et beaucoup de gras, de gras saturé.
Le gras, on y vient, c'est le dernier élément très important pour la peau. Mais moi, j'aurais l'impression qu'en mangeant du gras, enfin des aliments gras, je vais avoir la peau grasse, justement. Mais non
ça se passe pas tout à fait
comme
ça. Tant mieux.
C'est que le ventre qui sera gras. Et tout,
ça
mais
oui, mais j'aurai un joli ventre, bien tendu.
Avec un beau teint.
Bon, alors, dans les gras, c'est une grande famille. Il y a différents types de corps gras. Il y a les oméga 3, les oméga 6. Et puis les gras saturés qui ont un petit peu moins. Je dirais que moins d'intérêt évidemment pour la peau, mais qui donne de l'énergie, donc c'est quand même assez intéressant. Mais dans les cellules, dans les membranes cellulaires, il faut savoir que c'est bourré de corps gras. Ce ne sont que des corps gras, donc il ne faut pas du tout se priver de corps gras quand on fait un régime si on veut garder une belle peau. Ça, c'est vraiment une erreur fondamentale.
Et je crois que vous avez une huile préférée, une huile magique presque, c'est l'huile
alors
de caméline.
Alors dans les oméga 3, il y a des huiles à privilégier, l'huile de colza, l'huile de table. Il y a l'huile de colza, il y a l'huile de noix, bien entendu. Et il y a une petite huile qui s'appelle l'huile de caméline, qui doit être certainement bien connue des personnes qui aiment bien les magasins un peu bio ou autres, qui est une des huiles les plus riches en oméga 3 de la planète. Oui, effectivement.
Ah, dans Top Chef, j'ai jamais vu ça. Ils ont jamais
moi, j'en ai chez moi, parce qu'on
en
avait déjà parlé une fois, cette huile. J'en ai acheté depuis.
C'est une petite plante d'Europe de l'Est. Alors, en fait, l'huile de caméline est souvent stabilisée par.
Moi, je la garde au frigo.
Par du romarin, du thym, qui lui donne du coup un petit goût. Un peu parasite, elle n'a pas trop de goût l'huile de caméline toute seule.
Moi, je la mélange à de l'huile d'olive, en
oui,
fait.
Oui, c'est
un
ça,
petit
il faut la mélanger
deux.
Avec colza, noix, olive.
D'où
faire
ce
un mix.
Teint, Jimmy, vous voyez.
J'ai dit, mais vous faites tout comme il faut, mais Mélanie, pourquoi ça ne marche pas? Alors, où se trouve l'erreur, Mélanie Gomez? Où est le problème aujourd'hui?
Il est méchant, hein, il a été gentil au tout début, mais c'est tout. Hein. Donc, l'huile de caméline, oui, c'est vraiment le best pour les oméga 3.
Oui, en plus,
c'est
oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, qui améliorent les peaux sèches, qui font plein de bonnes choses.
En mangeant tout ce qu'on a décrit, on peut avoir des effets sur notre peau. Donc, Jimmy peut espérer en avoir à partir de quand?
En 2055, pour moi.
Si c'est pour ce soir, ça va être un petit peu court, mais.
En quelques jours, quelques semaines.
Non, mais il y a des choses qui peuvent vivre en une semaine, deux semaines. Moi, je pense. Alors, j'ai mon aliment chouchou hein, pour la peau. Parmi tous, c'est le jus de carotte. Alors, vous faites des jus de carotte, vous en prenez tous les jours, un bon grand verre, vraiment frais, centrifugé ou avec un extracteur. Vous prenez un jus de carotte et vous allez voir, au bout de 15 jours, 3 semaines, votre peau se métamorphoser.
Ah bah écoutez, on va
meilleure
essayer
mine,
ça. Meilleure
mine, grain de la peau
affiné, ce soir, vous allez acheter
moins de peau grasse.
De jus de carotte.
Non, il faut le faire soi-même et le boire tout de suite.
Bon. Allez, très bien. Isabelle, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à la beauté dans l'assiette. On débute la semaine en prenant soin de notre apparence. Ça fait du bien et c'est sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Isabelle Barra. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et chrononutritionniste. Alors cet après-midi, vous nous aidez à prendre soin de notre peau, mais pas via des cosmétiques, via notre alimentation. Alors encore un conseil, on a parlé de tous les oligo-éléments qu'il faut privilégier pour avoir une peau saine juste avant. Mais là aussi, finalement, ces aliments, tous ces bons aliments que vous nous avez indiqués, je crois qu'il y a quand même des bons moments dans la journée pour les consommer finalement. Vous disiez à Jimmy, la raclette le matin, pourquoi c'est si important de choisir le bon moment pour la raclette?
Oui, ça en fait, si on veut respecter les règles de la chrononutrition hein, qui sont très calquées sur la chronobiologie, qui est l'étude des rythmes de l'être humain, des rythmes biologiques, en fait on respecte son horloge biologique et surtout la variation d'enzymes et d'hormones qui varie toute la journée sur 24 heures, de la même façon pour tout le monde. Et vous avez des moments où c'est mieux de manger certains types d'aliments que d'autres. Hein. Donc la chrononutrition, c'est manger ce qu'il faut au bon moment. Et effectivement, le matin va être différent du petit déjeuner, enfin du déjeuner, du goûter et du soir. Le matin, surtout corps gras saturé, pain, beurre, fromage, idéal, jamais, jamais de sucre le matin.
Ah, même d'accord. Pas de fruits? Non,
pas de fruits. Le fruit, ça sera l'après-midi. Éventuellement des œufs, donc une bonne charge de protéines et de corps gras.
Œufs, raclette, voilà, oui, pomme de terre, Jimmy, oui. C'est vrai, hein, la raison, oui. La raclette, c'est le matin pour la peau.
Tout à fait. Au déjeuner, bon, c'est un plat unique, avec surtout on est dans la synthèse musculaire, donc on va avoir pas mal de protéines et un petit peu de féculents. Donc là, on va plutôt être dans les céréales.
L'entrecôte, la volaille.
Exactement, avec des céréales complètes qui vont vous apporter de la silice, pour les cheveux, c'est bien aussi, ou du zinc pour la peau. Vous allez faire un goûter après, en fin d'après-midi quand l'insuline sera très basse. Donc, c'est le moment d'incorporer les sucres naturels.
Donc là, je peux prendre mon fruit à ce moment-là.
Exactement. Alors là, allez-y, avec tous les fruits et fruits rouges possibles.
Je vais prendre des goyaves et des cassis. Là, vous aviez dit que c'était impeccable.
Vitamine C, vitamine A, les bêta-carotènes, tout ce que vous voulez de bon pour la peau. Avec, bien sûr, les graines. Les graines, les amandes, les noix.
Graines de courge, vous disiez.
Oui, tout à fait.
Et le soir, alors, pour avoir une belle peau.
Et le soir, on est plutôt dans le léger et qualitatif aussi, avec les poissons riches en corps gras, en oméga 3, on n'en a pas trop parlé. Il n'y a pas que les bonnes huiles, il y a aussi les poissons gras, bien entendu. La petite sardine, hein, c'est l'allié de la peau, la petite boîte de sardines. Et puis les légumes, bien sûr, brocoli ou autre.
Donc on a un peu expliqué ce qu'il fallait manger, mais qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? Parce que peut-être que les erreurs proviennent de là.
Vous prenez votre régime alimentaire type, Jimmy, vous mettez tout à la poubelle et voilà.
Et voilà, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Le sucre, par exemple,
oui,
je suppose que c'est pas...
Oui, c'est l'ennemi numéro un de la peau, le sucre, c'est clair.
Pourquoi?
Parce que, en fait, le sucre ça va réagir avec les protéines, dont les fibres de collagène et d'élastine, et faire une réaction qu'on appelle la réaction de glycation. Et en fait, c'est une sorte de caramélisation, entre guillemets, des fibres. Ça va les rigidifier et les casser. Donc en fait, à plus ou moins long terme, le sucre va vous créer des ridules et des rides.
Ouais, d'accord. Donc c'est pas vos origines égyptiennes, en fait.
Ça, c'est valable pour le corps humain en général.
C'est le régime alimentaire. Mais est-ce que tous les sucres se valent? Est-ce que, du coup, existent les gâteaux, les pâtisseries?
Pas tout. Le corps humain n'est pas fait pour ingérer des sucres.
Je vous aimais bien jusque-là, mais.
Ah ouais, ça va être dur.
Vous mangez aucun sucre, vous, par exemple?
Occasionnellement. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de nos habitudes.
D'accord. Sinon, vraiment, pour avoir une belle peau, il faut tous les bannir. C'est triste, même. Non, sauf les fruits.
Les fruits.
L'après-midi.
Oui, voilà. Les fruits l'après-midi. Vous savez, on peut se régaler en chrononutrition. On a quand même beaucoup de bonnes choses.
Une carence en fer aussi, je crois. C'est pas bon pour la peau.
Oui.
Pourquoi?
Alors oui, c'est pas très bon pour la peau. Le fer, c'est aussi fait partie des éléments intéressants, surtout pour les cheveux.
Ouais, et les ongles, hein,
Les cheveux, les ongles. Vous pouvez perdre vos cheveux si vous avez des carences en fer. Ouais, tout à fait, ce qui arrive quand
on vient
d'avoir un
bébé. Revient du coup alors à ce fer d'origine animale qu'il faut privilégier parce que le fer végétal, il n'est pas aussi bien assimilé.
Hein.
Donc la viande, la viande encore pour la beauté de la peau.
Encore, c'est-à-dire la viande rouge, même les œufs également. Mais c'est vrai que le fer d'origine végétale est beaucoup, beaucoup moins absorbé et beaucoup moins qualitatif et quantitatif également.
Si on parle des œufs, pour moi, ça va avec de la mayonnaise. Est-ce que la mayonnaise donne des boutons?
C'est idéal, Jimmy, c'est idéal.
Alors en fait, ce qui interagit avec la peau, je dirais immédiatement dans les 24 à 48 heures et qui est à bannir, effectivement, c'est si vous avez un foie fragile. Si vous avez un foie fragile, qui ne supporte pas tellement bien les corps gras, les repas riches et l'alcool, votre peau peut réagir parce qu'on dit que la peau est le relais du foie. Donc en fait, vous pouvez avoir des petits boutons, vous pouvez avoir de l'acné pour ceux qui sont en période d'acné. Et puis un teint pas très beau, un peu blafard, pour des problèmes surtout liés hépatiques.
Pour terminer, un mot sur les laitages peut-être dans la peau. Est-ce que c'est important de consommer beaucoup, pas trop? Qu'est-ce qu'il faut consommer?
Alors, les laitages sont très intéressants à condition qu'ils n'aient pas de lactose. Le lactose est un sucre qu'on ne peut plus digérer passé l'âge de 2 ans. Donc le lait est un aliment de bébé, est à bannir de l'alimentation.
Le fromage, même pas?
Alors le fromage n'a plus de lactose, donc on peut y aller.
Ah, ça c'est la bonne nouvelle de la journée.
Et la crème fraîche, non plus de lactose. Donc beurre, fromage, le matin, petit déjeuner, c'est parfait.
Bon, ça se termine bien, Jimmy, finalement.
C'est pas mal, oui. On va la crème fraîche, là, ça va, on est bien.
Continuez,
ça vous va.
Merci beaucoup, Isabelle Barra, d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Beauté et nutrition, très intéressant. On va tenter de suivre quelques-uns de vos conseils. On espère d'ici quelques semaines, hein, Jimmy et moi, on aura un teint lumineux au moins. Et vous aussi qui nous écoutez, merci encore, Isabelle.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien focus sur une maladie cardiaque mal connue, la fibrillation atriale, appelée aussi fibrillation auriculaire. Nous ferons le point sur cette pathologie avec le docteur Jimmy Mohamed. A tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et ce qui a motivé cette séquence justement aujourd'hui, c'est cette question que nous a envoyée Thibaut sur les réseaux sociaux. Je vous la lis tout de suite, Jimmy. Thibaut nous dit qu'il a vu sur internet que l'acteur Sean Connery était décédé des suites d'une fibrillation atriale. Thibaut s'interroge donc sur cette maladie. Il a compris que c'était quelque chose qui avait été probablement au niveau du cœur, mais il voudrait en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy, la fibrillation atriale ?
Alors, c'est l'arythmie la plus fréquente en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, votre cœur, il bat régulièrement. Tel un métronome, il est régulier.
Et... Qu'est-ce que vous en savez pour le mien ? Peut-être qu'il rit.
Alors, ça, c'est... quand je vous énerve un peu, à mon avis, il bat un peu plus vite.
Oui.
Mais il bat plus vite, mais il reste régulier.
Voilà, c'est ça.
Et la particularité de la fibrillation auriculaire, c'est que c'est de l'arythmie. Pour battre, vous avez un réseau électrique qui va à chaque fois entraîner une contraction. Eh bien, dans la fibrillation atriale, il y a une tempête électrique. Ce réseau électrique va être perturbé et par conséquent, votre cœur va battre de façon anarchique, tantôt rapidement, tantôt lentement, et ça va donner ce qu'on appelle des palpitations. Vous allez sentir au niveau de votre poitrine des petits manquements de cœur, ou au contraire, comme si le cœur battait très vite alors que vous êtes au repos.
Quand on dit
exactement,
le cœur qui s'emballe. Ça concerne quel type de patient ? Alors, on ne sait pas d'ailleurs si l'acteur dont on parlait tout à l'heure est vraiment décédé de ça, mais en tout cas, c'est ce qui a été écrit dans la presse. Quel type de patient ? Plutôt âgé, plutôt jeune,
enfin, alors, c'est ouais. 1% de la population qui est atteinte de cette maladie, et par contre, c'est vrai que ça touche un peu plus les personnes âgées. Si on regarde celles qui ont plus de 75 ans, eh bien, c'est 70% de fibrillation atriale parmi les patients qui sont atteints. Donc, on sait qu'avec l'âge, on est plus exposé à cette fibrillation.
En dehors de l'âge, c'est quoi les causes de cette maladie ?
Alors, je vous ai dit, c'est lié à une atteinte du circuit nerveux, l'atteinte de la conduction nerveuse qui va faire que le cœur va s'emballer. Eh bien, cette conduction, elle va s'abîmer avec l'hypertension artérielle. Le réseau va moins bien marcher et aussi les maladies cardiaques, de façon générale, vont entraîner un défaut de conduction de l'impulsion électrique. Donc, si jamais vous avez de l'insuffisance cardiaque, une valvulopathie, c'est-à-dire une valve qui marche moins bien, ou une maladie des artères coronaires, eh bien, vous êtes plus exposé à cette arythmie. Mais attention, vous pouvez aussi avoir des apports extérieurs comme de l'alcool. L'alcool est un excitant et va exciter le cœur et donner de l'arythmie. Et puis, c'est souvent peu connu, mais une thyroïde qui est mal équilibrée, une hyperthyroïdie, la thyroïde, c'est la centrale nucléaire du corps humain, lorsqu'elle s'emballe, le cœur va s'emballer et donner cette arythmie. Et d'ailleurs, si on corrige le problème de thyroïde, on corrige le problème d'arythmie.
D'accord, donc on a compris pas mal de facteurs de risque, que ce soit des maladies cardiaques ou autres, ou même l'alcool, vous l'avez dit. Ça se traite, j'imagine, alors bien ou pas, ça, je ne sais pas, mais il y a des traitements, c'est quoi ? Et finalement, ça vaut le coup de consulter, c'est important, on est d'accord.
Deux intérêts majeurs. Le premier, c'est que comme votre cœur se contracte de façon anarchique, il va propulser moins de sang. Le sang sera moins bien expulsé, et donc ça va entraîner de l'insuffisance cardiaque, et donc ça va fragiliser votre cœur. Si de base vous avez un cœur fragile, il sera encore plus fragile et vous allez faire une décompensation cardiaque. Mais le risque le plus important, c'est celui d'accident vasculaire cérébral.
Ah oui.
Parce qu'au fur et à mesure que le cœur bat moins bien, eh bien, il y a du sang qui va stagner.
Ça va faire des caillots.
Exactement. Voilà. Le sang va stagner dans l'oreillette, au niveau du cœur. Et au bout d'un moment, le cœur va se remettre à battre correctement. Le sang qui va être formé avec un petit caillot, il va être expulsé, remonter au cerveau et donner l'accident vasculaire cérébral. C'est la raison pour laquelle on va donner des anticoagulants. On va vouloir fluidifier le sang pour éviter ces complications. Et puis le fait d'avoir le cœur qui bat vite, bah ça va vous donner de l'essoufflement, vous allez avoir cette palpitation, cette tachycardie, et on va ralentir un peu le cœur avec des antiarythmiques ou des bêta-bloquants. Mais ça, c'est une histoire de cardiologue. Mais encore une fois, si jamais vous avez des symptômes, il faut consulter, on vous fait un électrocardiogramme.
Quels symptômes, les palpitations dont vous avez parlé,
essoufflement, tout signe qui ressemble de près ou de loin à une atteinte cardiaque, allez voir le médecin.
Déjà généraliste, peut-être après le cardiologue.
Même si vous allez pour rien, ce n'est pas très grave. Au pire, vous ferez un bilan parce que parfois, on peut faire un enregistrement du cœur sur les 24 heures puisque la palpitation, la tachycardie, pardon, peut être nocturne et vous pouvez ne pas forcément vous en rendre compte.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez bien sûr avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste qui dansait à l'instant dans le studio.
Absolument.
Sur France Gall. On est de bonne humeur ce lundi. Catherine, aujourd'hui, on voulait s'interroger avec vous sur votre métier. On s'est dit, tiens, pourquoi Catherine vient nous parler de sexologie tout le temps finalement? Pourquoi faut-il, quand faut-il surtout consulter un sexologue?
Alors, évidemment que cette question est un peu compliquée parce que je pense qu'on ne consulte pas nécessairement parce qu'il y a de la pathologie. Et je dirais que il ne faut pas pathologiser la sexualité, c'est-à-dire que on grandit, on découvre, on pousse le champ de nos possibles et on rencontre l'autre au fur et à mesure de notre vie, de nos rencontres, évolue notre sexualité. Cela ne veut pas dire que, comme on n'est jamais complètement abouti, qu'il faut aller consulter, bien évidemment.
Oui, mais si on vient vous voir, Catherine, c'est qu'il y a un problème. Je suppose qu'on ne vient pas vous voir quand tout va bien. Comme le médecin, en général, on commet l'erreur d'aller voir le médecin seulement quand on a un symptôme. Mais vous, je suppose que si on vient vous voir, c'est qu'on a un souci dans sa vie sexuelle.
Oui. Vous avez raison, mais comme on parle beaucoup de sexualité dans les médias, ici par exemple, dans les magazines, dans la rue aussi, on a le sentiment, dès lors que l'on ne vit pas ce que vivent les autres ou ce que l'on croit que vivent les autres, que nous avons un problème. Donc il faut arriver à voir, se donner la possibilité de grandir, se donner la possibilité de s'accorder nos façons de fonctionner. Pour autant, vous avez raison, d'abord, parfois on a un problème parce que c'est douloureux la sexualité. Quand je dis douloureux, pas que physiquement, dans le lien à l'autre, dans la compréhension que l'on en a, dans aussi comment on a abordé, comment on a grandi dans sa vie, comment on a découvert la sexualité, parfois avec beaucoup de brutalité, beaucoup de violence. Il y a des couples aussi qui vont pas bien.
J'allais vous dire, c'est qu'un truc de couple, la sexothérapie, ou est-ce qu'il y a des célibataires? Je sais pas quelle part de votre patientèle ça représente, par exemple, les personnes en couple, les personnes toutes seules.
C'est les deux, en fait, qu'il y a des gens qui sont en couple, mais c'est pas tellement pour parler de la problématique de couple, mais leur problématique personnelle, parce que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un et qu'on fait l'amour avec ce quelqu'un, qu'on sait lui parler de sa sexualité, de sa difficulté, parce que par pudeur, justement, on ne dit pas les difficultés que l'on rencontre. Du coup, l'autre ne le sait pas. Comme il ne sait pas, il ne voit pas très bien pourquoi il y a une tentative d'échapper à la sexualité, parce que, justement, elle peut être inconfortable, anxiogène, impudique, etc., etc. Et ça ne concerne que l'individu et pas nécessairement le couple.
Et du coup, pourquoi est-ce qu'on vient vous voir alors? C'est baisse de libido, baisse du plaisir, baisse de, je sais pas, enfin des...
Alors, assez classiquement, voilà, c'est ça. Assez classiquement, c'est tout ce qui est un problème de plaisir qui s'est identifié chez les hommes par perte d'érection et chez les femmes, baisse de libido. Alors, souvent, ils se mettent...
Ça, c'est les principales raisons de consultation.
Voilà. Ouais. Et puis, il y a tout ce qui est douloureux chez les femmes, notamment, donc des dyspareunies, donc des douleurs à la pénétration. Il y a aussi le vaginisme chez les femmes, c'est-à-dire une difficulté à être pénétrée. Alors, il y a le vaginisme primaire, c'est-à-dire la première fois où on fait l'amour, eh bien, ne se fait pas parce que c'est douloureux. Et puis, il y a le vaginisme secondaire, c'est-à-dire on a pu faire l'amour, on a pu être pénétré. Et puis, un jour, on ne peut plus. Chez les hommes, c'est l'éjaculation précoce ou l'anéjaculation. Et puis après, plus largement, c'est les difficultés de rencontre, hommes et femmes,
de relations,
qui, en fait, est souvent, à l'origine, souvent une peur de la sexualité, une peur de l'engagement de relations amoureux, mais aussi de l'engagement physique, donc de cet emboîtement corporel.
Ils ont quel âge, les patients qui viennent vous voir en moyenne? Parce qu'on a l'impression que c'est un problème de personnes...
Un peu plus âgées, un peu mûres. Voilà, on a un peu cette image-là, peut-être des séries, de la télé, où on voit des vieux couples qui ne vont pas bien, qui vont consulter, mais est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, c'est ça.
Alors,
Jimmy veut savoir s'il y a 33 ans, c'est possible.
C'est possible. Alors, évidemment, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas pathologiser à l'excès, parce que sinon, évidemment, dès lors que l'on rentre dans le champ de la sexualité, on irait consulter pour être déjà opérationnel et avec une angoisse de performance qui serait l'origine de la demande de thérapie. Fondamentalement, bien sûr que les gens sont plutôt dans la, on va dire, 40-50, mais tout simplement parce que, justement, ils ont un parcours, ils ont observé des répétitions, ils en ont marre de ces répétitions, alors du coup, ils viennent consulter. Mais de plus en plus, je vois des très jeunes qui font des demandes de consultation.
Ça veut dire quoi, très jeune ?
Ils ont entre 18 et 30 ans, ou ils ont la petite trentaine, et ils s'interrogent. C'est pour ça que je les écoute et je les reçois, mais surtout, je vérifie d'abord qu'il s'agit bien d'une problématique sur laquelle ils trouvent le lieu pour pouvoir en parler, en tout cas, et pas nécessairement parce que, justement, ils ont cette injonction sociale de performance qui est à l'origine de leur anxiété.
Et je suppose que, malheureusement, on ne peut pas tout régler en une séance. On est obligé, non pas d'avoir un forfait, parce que j'aime pas ce terme, mais d'avoir un suivi régulier, finalement, pour être... pour que ça s'améliore.
Oui, alors certains viennent simplement pour se rassurer et une consultation suffit. Mais pour d'autres, en effet, il faudra une récurrence qui est à décider ensemble en fonction du besoin et des possibilités de chacun.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On a mieux compris ce qu'était votre métier finalement. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, nos héros sont fâchés à mort.
Oui, Voltaire était fâché à mort avec Rousseau. JFK avec Frank Sinatra. Oui. Et vous avez choisi qui ?
Eh bien, je sais que c'est des musiciens qui vous tiennent à cœur Stéphane et qui font partie de votre liste Deezer, de votre playlist officielle, c'est Liam et Noël Gallagher. Vous vous souvenez
Oasis,
de quel groupe?
Oasis. Non, c'est pas ça. En tout cas, l'histoire, sans se la raconter, on est au rendez-vous là. On va pas se fâcher à mort.
Hein. Nous, on se fâchera jamais.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.